Radio Grille Ouverte 88.2, un flash spécial, voilà, comme dans les grandes radios, on va dire flash spécial, plus simplement dans le cadre de la mobilisation qui s'est fait jour depuis le 9 mars vis-à-vis du projet de loi travail de la ministre Myriam El Khomri. Nous recevons aujourd'hui des participants aux manifestations Nuit Debout et qui participent également aux assemblées de lutte qui se tiennent tous les lundis soirs 18h30 à la Bourse du travail d'Alès. Et oui, c'est une demande qui nous a été faite lors de la précédente Nuit Debout de samedi, auquel nous avons souhaité répondre favorablement. Cathy et Yves, donc, vont interroger successivement ou ensemble Vincent, Philippe, Lino et Tom. Merci d'être là, messieurs, mais pourquoi que des garçons ? Qui va répondre ? Philippe ?
C'est un concours de
circonstances.
Mais c'est promis, si ça se reproduit, on sera, il y aura peut-être que des filles ou ce sera beaucoup plus mixte.
Oui, oui, quand même, effectivement, il serait souhaitable qu'il y ait une certaine parité également dans la prise de parole de ces assemblées de lutte et de ces donc participants et participantes aux Nuits Debout.
Vincent. Excuse-moi, mais ouais. Je vous rassure, sur le terrain, il y a autant de filles que de garçons. Sur la lutte et dans les assemblées générales, il y a autant de filles que de garçons. Et dans les lycées aussi.
J'ai eu l'occasion de le constater, mais quand même, je tiens à signaler qu'il a fallu, samedi dernier, qu'une femme intervienne en disant ce serait bien qu'il y ait une prise de parole masculine, puis une prise de parole féminine, et qu'il y ait une certaine parité, parce que là aussi, il y avait donc tendance peut-être à ce que les garçons parlent plus. Voilà. Bon, ceci dit, je suis pas là pour vous faire la morale, pas du tout. Nous sommes là pour vous donner la parole. Avec nous, Lino, qui est lycéen à Jacques Prévert, et depuis le début de cette semaine, jusqu'aux vacances, qui interviennent donc ce samedi, nous serons le 16 avril, hein, c'est ça, le lycée est bloqué. Or, c'est quand même assez étonnant, Lino, le lycée Jacques Prévert est bloqué. 15 jours après, le lycée JBD, Jean-Baptiste Dumas, manque de coordination. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Oui, alors c'est vrai que le lycée Jacques Prévert, depuis un moment, a été assez excentré et pas vraiment en coordination avec les autres lycées, etc.
Oui, mais enfin, excentré par rapport à l'Est, mais vous n'êtes pas excentré par rapport à la France et à ce qui se passe.
Donc voilà, c'est aussi peut-être de la part des élèves. Il y avait peut-être des élèves qui ont moins l'habitude et moins la force peut-être de lancer ce genre de choses. Du coup, l'initiative est venue on l'attendait pas vraiment, mais est venue surtout des secondes, en fait. Ça fait un moment que les premières et les terminales y réfléchissaient, etc., mais jamais personne n'est passé à l'acte, voilà. Et donc c'est parti des secondes, principalement, des logistiques, après des GA, etc., enfin des différentes études du lycée. Et du fil en aiguille, en une semaine et demie de préparation, ils ont lancé ça depuis dimanche dans la nuit.
Alors ce retard à l'allumage, maintenant, est compensé par un blocage absolument ferme du lycée.
Alors on essaye de faire un blocage absolument ferme, mais il se passe que, pour que ça se passe bien, il y a les bacs blancs en ce moment, etc. Ah. Il fait que on a laissé un passage pour les examens. Voilà. Donc les examens sont déroulés au mieux que ça pouvait être fait. Certains ont été annulés, d'autres sont déroulés en plus petits effectifs, etc. Mais du coup le blocage est pas parfait, on va dire. Peut-être qu'on aurait voulu avoir mieux, etc. Mais encore une fois, le fait que ça soit lancé que par un petit groupe d'élèves, etc., que beaucoup de monde sont rejoints après, peut-être qu'il y a eu un manque d'effectifs aussi pour bloquer suffisamment bien le lycée aussi.
Enfin, il y a blocage, mais en même temps, il y a compréhension de votre part, de ceux qui bloquent, que les élèves qui souhaiteraient passer leur bac blanc puissent le faire
sereinement. On n'est pas non plus en affront contre le lycée, hein, c'est pas du tout ça le but. Donc on essaye que ça se passe bien, et une des façons pour que ça se passe bien, c'est de faire passer les bacs blancs, puisque l'administration nous a bien fait comprendre que ça pouvait pas être déplacé. Enfin, apparemment, ils ont des agendas surchargés, etc. Mm-hmm. Donc, on a composé avec.
Comment se passent les relations, précisément, avec l'administration, les professeurs et les parents d'élèves ?
Alors, je vais commencer par parler des professeurs. La plupart, j'en ai constaté aucun qui était contre. Donc, personne s'est opposé. Après, bien sûr, ils prennent pas parti. Enfin, ils ont, je sais pas si c'est une obligation ou quoi, mais ils disent pas exactement on est pour, etc. Mais voilà, donc on a, si ce n'est en discutant avec eux, etc., on voit qu'il y a, quand même un support moral, on va dire, ou en tout cas pas un affront de leur part. Ensuite, avec l'administration directement, donc le proviseur, CPE, etc., le proviseur apparemment l'a pris d'une façon personnelle. Enfin, je trouve, et beaucoup trouvent ça, qu'il a assez mal géré les choses, en fait. Il a eu des pics de colère, ça veut dire que devant le lycée, il est venu à gueuler. C'était des insultes, hein, vraiment, des insultes, que ce soit par rapport aux militants, aux syndicalistes, à tout le monde, en fait, qui était là et qui défendait cette cause-là. Pas directement à la cause, mais vraiment les gens qui bloquaient le lycée. Il était pris de colère plusieurs fois, encore une fois ce matin. Il a même pris un élève d'une barricade, l'a jeté par terre, enfin, après les... Voilà. Donc, il a été assez violent, en tout cas les matins, en fait. On avait l'impression qu'il a des pics de colère à chaque fois, les matins. Et après, donc, par exemple, hier soir, on est allé discuter avec eux. On a été reçus avec quelques professeurs.
Vous avez été discuté avec qui? Avec eux.
C'est
qui,
eux? Avec eux, donc l'administration, et quelques professeurs, donc proviseurs CPE. Et donc, il s'est dit, donc, pour que le blocus continue à se dérouler correctement, on a eu en quelque sorte des accords. Voilà. Donc encore laisser passer les bacs blancs, laisser passer la nourriture pour les internes aussi, parce qu'il y a des internes, et laisser passer les camions. Voilà. Donc il y a eu un accord là-dessus, et aussi de l'autre côté, ils avaient promis de considérer les absences comme justifiées par le blocus. Et voilà.
Du côté des parents d'élèves?
Du côté des parents d'élèves, ben, après, j'ai eu que les retours de la part du directeur à ce moment-là, qui a dit qu'apparemment, ils sont contents qu'ils le tiennent au courant. Une partie, à savoir qu'il a aussi appelé personnellement pas mal des parents des élèves qui faisaient la manifestation, enfin, qui faisaient le blocage, il leur a dit, raisonnez vos enfants, etc. Donc, il y a une partie des parents qui ont été moyennement pour.
Oui,
il y a une partie, moyennement pour ou contre,
forcément.
Voilà.
Oui.
Forcément, il y en a certains qui viennent chercher leur enfant, etc. Mais après, j'ai pas eu, moi, de contact direct avec des parents, donc.
Si ce n'est les vôtres, peut-être.
Si ce n'est les miens, mais les miens sont pour, enfin, bref.
Ils sont pour.
Ils
soutiennent.
Ils soutiennent le fait que je veux manifester.
D'accord. Voilà. Alors Vince, merci Lino. Vincent, ouais. Philippe et Tom, vous avez passé l'âge d'être lycéen, mais je suppose que vous suivez attentivement ce qui se passe à Jacques Prévert et dans d'autres lycées de France. Qui répond, Philippe?
Ben oui, ouais, ben en fait là, ce que disait Lino par rapport à Prévert, ben en fait il y a donc deux semaines avant, il y a le lycée de JBD qui a bloqué toute la semaine aussi. Ils avaient déjà fait une première action le 9 mars, c'est-à-dire dès le premier jour. Ils ont fait partie des premiers lycées qui se sont mobilisés. Ils ont bloqué la journée et c'était un mercredi, donc c'était le matin, et dans la foulée ils sont partis en manifestation, donc le 9 mars ils ont fait une manifestation lycéenne, et donc c'était, je sais plus, deux semaines après qu'ils ont décidé de après il y avait un jour férié le lundi, donc ils ont démarré le mardi, donc pareil dans la nuit de lundi à mardi ils ont bloqué et ils ont tenu la semaine complète, et c'était la semaine en fait du 31 mars, donc en fait l'idée c'était de démarrer le mardi, et
c'était au moment de la grande manifestation nationale,
de tenir au moins jusqu'au 31 mars pour rejoindre le cortège de syndicats et de tous les travailleurs, enfin tous les secteurs réunis donc le 31 mars sur Alès.
Est-ce que parmi vous, oui Tom,
je pensais aussi qu'il fallait préciser le fait que les deux blocages ne soient pas synchronisés. C'est aussi que le lycée Prévert est un lycée assez compliqué à bloquer, dans le sens où, comme il le disait, c'est excentré. Donc c'est compliqué de trouver du matériel, dont des poubelles, tout ça. Il y a à peu près 8 ou 9 entrées, corrigez-moi si je me trompe. Et surtout que les lycéens n'ont pas forcément le permis pour aller chercher tout ça.
C'est un ancien lycéen qui parle.
Voilà, exactement.
Qui connaît le lieu. Ouais. Alors précisément, Tom, Vincent, Philippe, est-ce que parmi vous, il y a des syndicalistes qui sont entrés dans la lutte contre ce projet de loi travail? Vincent.
Nous, ici, on n'est pas des représentants syndicaux, ni tout
ça. Vous êtes des participants en nuit debout, et vous êtes issus des assemblées de lutte, comme on le disait au début.
On est des participants à la lutte, plutôt, et on participe aussi, effectivement.
Vous n'avez pas d'étiquette particulière.
On est allé faire un petit tour en nuit debout, occasionnellement. Mais après, effectivement, il y a quand même, notamment sur les assemblées générales de lutte, où on arrive à faire se rencontrer autant des syndicalistes qui arrivent avec l'étiquette syndicat que des personnes qui sont dans les syndicats, que des associations, que des organisations de lutte sur Alès. Donc oui, le mouvement, il est porté et je crois qu'on le laisse bien porter par les lycéens parce que en disant c'est l'avenir, mais il y a quand même un gros mouvement de fond, une lame de fond qui est là derrière et qui est autant portée par des individus que par des gens qui sont issus des syndicats
Vous sentez plus des individus autonomes que justement avoir vous rallier à un tel ou tel groupe, organisation.
Ouais. Oui, personnellement, oui, c'est clair que je fais partie plutôt des individus autonomes, mais qui vont se rencontrer autour d'une lutte, comme ça se fait depuis quelques années. Je pense que c'est quelque chose qui est le plus important, c'est d'arriver effectivement à ce que tout un tas de personnes se rencontrent autour d'une lutte.
Alors actuellement, nous, les médias, nous avons tendance à nous focaliser sur le phénomène Nuit Debout, qui a démarré de la place de la République à Paris, qui a essaimé maintenant largement, y compris donc ici à Alès, puisque le grand rendez-vous c'était samedi dernier, mais vous me disiez en préparant cette émission qu'il y avait tous les soirs, actuellement sur la place de la mairie, des Nuits Debout. Bon, même si c'était samedi qu'il y a eu du monde de 150, 300 personnes, et là une quarantaine de personnes seraient présentes à chaque nuit, avec un rendez-vous donc fort le samedi prochain d'ailleurs. Mais est-ce que justement ces Nuits Debout ou ces assemblées de lutte, c'est une sorte de convergence effectivement de luttes éparses, diverses, voire de révoltes individuelles qui se retrouvent?
En fait, on peut dire que la loi travail, c'est une sorte de...
Ça a cristallisé.
La goutte qui a fait déborder le vase. Et du coup, oui, c'est un tout, en fait. C'est une lutte sociale et Nuit Debout est issue de ce mouvement. Donc oui, c'est un tout, en fait.
Vincent?
Oui, puis je pense que Nuit Debout, en fin de compte, ils sont dans une continuité d'un mouvement qu'on est en train d'oublier, qui est quand même le mouvement « On vaut mieux que ça ». Qui est la base pour
Qu'est-ce
moi d'effectivement de ce qui se passe aujourd'hui, c'est sur les réseaux sociaux des gens qui ont lancé un appel en fin de compte à témoigner, où des particuliers ont expliqué leurs conditions de travail et leurs conditions de vie. Et là, tout d'un coup, c'est focalisé, c'est rencontré des gens qui se sont dit eh ben non, je suis pas le seul à vivre quelque chose, à vivre la galère dans le boulot. On est plein. Et ça a été, et ça continue aujourd'hui, donc entre Facebook et Twitter, des gens qui viennent témoigner. Donc Nuit Debout arrive derrière parce que effectivement un petit groupe de personnes issues de Fakir, issues de Joli Mom,
issues de Fakir, c'est un
journal dont fait partie Jean-François Ruffin.
François Ruffin, qui vient donc
de sortir le film
Merci Patron.
Voilà, qui est en fin de compte un petit peu le moteur. Donc au départ, ce qu'il lance et qui peut-être aujourd'hui est en train de se modifier, ce qu'il lance, c'est une occupation de la rue. Et une occupation de la rue pour une occupation de la rue, c'est-à-dire se réapproprier la rue, se réapproprier la parole, se réapproprier les espaces publics. Et arrive dessus le groupe Nuit Debout qui, eux, essaient d'en donner encore une autre tournure. Donc voilà,
c'est très informel.
Très informel et très formel en même temps.
Ah oui?
Parce que c'est très codifié dans la façon dont les prises de parole sont faites et tout ça. Et voilà. Mais en fin de compte, je pense qu'on n'est pas représentant de Nuit Debout. En fin de compte, c'est toute une parole qui se libère. Alors, elle se libère par On vaut mieux que ça, ou elle se libère par Nuit Debout, ou elle se libère dans les occupations que font les lycéens, ou elle se libère dans les mouvements de grève, ou elle se libère dans les manifestations et dans les assemblées de lutte. Mais voilà. Il y a une parole qui se libère et une parole qui est en train de dire on n'en veut plus.
Alors, Vincent, vous expliquez très bien ce phénomène, mais ça me fait penser à ce vieux fantasme de toute gauche révolutionnaire, du grand moment de la convergence des luttes, où il y aurait, ou comme en mai 68, au théâtre de l'Odéon, à la Sorbonne, c'était des agora, des grandes discussions où chacun venait présenter effectivement soit ses difficultés, soit ses espoirs. Alors, Philippe, est-ce que c'est la comparaison n'est pas raison, mais enfin, est-ce que c'est pas ce fantasme, effectivement, de la grande grève générale qui réapparaît sous des formes à travers les réseaux sociaux ou à travers ces rendez-vous?
Oui. Ben, en tout cas, l'idée, en tout cas, c'est de se rendre compte, en fait, qu'on vit tous, en fait, des conditions qui peuvent paraître différentes par certains aspects, mais qu'au final, en fait, on est tous mis au pas, en fait, d'un système qui nous serre la ceinture tous les jours plus. Et en fait, on a besoin, en fait. Et par ailleurs, on est aussi on est dans une société où on est tous atomisés, tous renvoyés à notre isolement, devant notre écran, devant la galère de remplir le frigo et de se battre tous les jours pour ça, et qui fait qu'on n'arrive même plus à parler à son voisin, à se rencontrer, à essayer d'échanger, et ne serait-ce que les choses qui sont fondamentales, en tout cas pour réussir à se mettre en lutte, à s'organiser ensemble, de partager nos galères les uns les autres, et pour se rendre compte qu'on a des points communs, et que en se mettant ensemble, en se regroupant, on peut réussir à essayer de mettre en place quelque chose pour faire changer les choses.
Et donc, de se parler, pas seulement par le biais des réseaux sociaux, mais de se parler d'homme direct, à homme, de femme à femme, au sein d'assemblées.
Bien sûr, oui, tout à fait. Oui.
Ouais.
Il y a plus de bar où il y avait une assemblée générale tous les soirs arrosée, où on pouvait échanger des idées politiques, même si ça se faisait des fois, ça finissait à coups de poing, c'était pas grave, mais il y avait un débat politique, et là, il y en a plus. Donc aujourd'hui, les gens sont en train de se réapproprier des choses comme ça. Et tu parlais des agora sur mai 68, sur Montpellier, ils sont en train d'occuper en ce moment les intermittents du spectacle.
Le CDN, voilà. Donc le Centre Dramatique National, effectivement.
Sur Paris,
ils ont reçu un communiqué qui date d'aujourd'hui. Oui.
Voilà. Et sur Paris, ils ont fait aussi des actions comme ça, où, en fin de compte, on est en train de changer, c'est plus des occupations corporatistes, c'est des occupations en disant, voilà, c'est ouvert, venez. Donc, voilà, il y a peut-être effectivement une petite résonance avec...
Avec le théâtre de l'Odéon en mai 68. Alors, plutôt que de retourner, de regarder dans le rétroviseur, on va regarder de l'avant et allons-y, comme chantait Camille. Camille, pour la petite histoire, si vous avez choisi ce titre, c'est aussi le prénom androgyne que souvent les zadistes donnent aux journalistes. Camille.
Allez, 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 à chaque coup de rame, prends la force dans la taille et dans les talons. Allez, allez, allons, à chaque coup de pioche, prends la force, c'est fastoche de ma chanson, de ma chanson. Et des
Voilà, Camille, allez, eh bien, nous sommes en compagnie de Vincent, de Philippe, de Lino et de Tom pour parler effectivement du mouvement d'opposition, parce que mouvement au pluriel, hein, et opposition au pluriel à la loi Travail El Khomri. Alors, Lino, on parlait de la loi Travail et on parlait de l'occupation du lycée Jacques Prévert. Hier, en passant devant le lycée, j'ai vu un carton qui m'a interpellé, hein, parce que justement, il y a non à la loi travail, mais entre les mots loi et travail, il y a loi du travail. Et alors, c'est cet article indéfini qui m'a interpellé. Parce que loi travail, on sait ce que c'est, ça fait référence à la loi El Khomri, projet de loi, tandis que la loi du travail, c'est, me semble-t-il, beaucoup plus global. Est-ce volontaire ou involontaire, cet article indéfini ?
J'ai pas participé à la rédaction de cette affiche-là, donc je saurais pas vous dire. Donc je saurais pas vous dire en fait.
Oui, mais ça n'a pas la même chose. Oui. La loi travail, c'est une loi, ouais. C'est cette loi. La loi du travail, c'est globalisé et c'est refuser le monde du travail, trépalium, cet outil de torture qu'utilisaient dans les Romains, ce trépied, trépalium. Qui a donné le mot travail. Bon, voilà.
Mais je sais pas si, enfin, pour cette affiche-là, sais pas s'il y a le.
Mais si ça n'a pas de
si
même sens.
Envie,
hein.
Ouais. Mais je pense quand même que de manière générale, c'est en fait pas seulement la loi El Khomri contre laquelle on se bat, c'est la situation du travail en général, la situation, voilà. C'est aussi pour ça qu'on se bat. C'est un ras-le-bol, c'est une goutte d'eau qui fait déborder le vase, etc.
D'accord, donc, voilà. C'était, semble-t-il, c'est comme ça que je l'avais compris. Donc, je pense que c'était volontaire, hein, que ce carton. Oui, Philippe.
En tout cas, c'est sûr que c'est à rappeler que là, la loi travail, pour le coup, elle arrive dans un enchaînement en fait, de mesures que tous les ans, en fait, on se prend tous dans la tronche. C'est l'année dernière, c'était la loi Macron. C'était l'ANI, c'était les accords UNEDIC en 2014 qui concernaient les précaires, donc, dont les intermittents, les intérimaires. Enfin, tous les ans, en fait, ce sont des mesures, des lois qui sont en fait qui vont dans le sens la libéralisation du travail et surtout une précarisation sans cesse croissante des conditions de travail et une baisse du coût du travail. Enfin, avec un langage barbare, c'est un langage économique, mais une baisse de salaires par ailleurs une demande toujours plus grande de la quantité de travail à fournir pour un salaire toujours moindre.
Ouais. Tom.
Et c'est aussi la première fois depuis 4 ans, en tout cas sur Alès, qu'on arrive à avoir un mouvement aussi important depuis le mouvement des retraites, en fait. Avant, il n'y avait plus vraiment de mobilisation sur Alès.
Vous-même, vous êtes engagé dans la vie professionnelle de tous les trois, Vincent, Philippe et Tom, oui, ouais.
Oui.
Tous les trois, donc vous êtes des travailleurs précaires ou
intérimaires.
Ouais, intérimaires,
alternants,
des CDD,
saisonniers,
CDD.
Pas vraiment, non, je suis artiste.
Artiste.
Oui, c'est précaire.
Oui, mais c'est donc intermittent peut-être.
Non, je suis handicapé et artiste.
Ah,
donc
d'accord.
Je suis très très précaire, oui.
Oui, donc tous les trois, vous savez ce qu'est la précarité donc professionnelle. Ouais. Philippe, pendant la chanson de Camille, Allez Allons, vous avez souhaité qu'on remette le point juste sur la question du mouvement de lutte, les assemblées de lutte qui se tiennent, on le rappelle, donc à la Bourse de Travail tous les lundis à 18h30.
Ben oui, donc là, en fait, sur Alès, en fait, dès que le mouvement s'est lancé le 9 mars, on a été nombreux, enfin plusieurs personnes, à se dire qu'il y avait une nécessité, en fait, d'ouvrir des espaces de rencontre, en fait, entre tous les différents acteurs et, en fait, chaque individu de la société, enfin, et du bassin d'Alès, qui aurait envie de se mettre en lutte. Et en fait, on constate tous que c'est toujours difficile, enfin, surtout de plus en plus aujourd'hui dans le monde du travail, par ce qu'on disait, la précarisation, mais qui sont l'intérim et tous les dispositifs, en fait, qui nous isolent, en fait, dans le travail. On n'a plus des gros bastions, comme des usines de Peugeot, avec 3000 ouvriers. C'est que des petites boîtes, ou alors dans chaque petite boîte, c'est de la sous-traitance, et l'intérim. On change de poste sans arrêt. Donc, il n'y a pas beaucoup moins la possibilité de se rencontrer, de tisser des liens les uns les autres. Et ce qui fait que dans un cadre de lutte, au jour d'aujourd'hui, ça devient réellement une nécessité d'ouvrir des espaces de rencontre pour se partager nos galères, mais aussi nos galères de vie quotidienne, de survie dans cette société, mais aussi de galères à se mettre en lutte, parce que dans une PME, se mettre en grève dans une PME, enfin, on a plein de camarades qui sont dans ces situations-là, c'est vraiment très 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 difficile. Et en fait, le fait de se rencontrer dans ce cadre-là, dans ces cadres d'assemblée de lutte, l'idée, c'est de pouvoir en fait trouver des moyens collectifs pour amplifier la lutte et pour se donner, réussir à trouver d'autres espaces en fait pour lutter ensemble par différents moyens. La grève, c'en est un. La grève générale, enfin la grève, je veux dire, appelée tel jour, donc le 31 mars, la prochaine grosse journée de grève sera le 28 mars. C'est un moyen. Mais des modes de grève, il y en a plein. Il y a des grèves perlées qui existent. C'est des grèves qui seraient. On décide qu'il y a une équipe qui fait une grève une heure, l'autre équipe qui fait une autre grève l'heure d'après. Et on alterne. C'est interdit. C'est quelque chose qui est interdit par la loi, mais c'est une pratique de lutte qui est ancestrale. Ça fait depuis que le salariat et ce monde du travail existe. Ce sont des pratiques de lutte qui existent. C'est des pratiques d'occupation, ce sont aussi des pratiques. Et après, donc il y a ces assemblées qui se mettent en place petit à petit sur Alès, donc depuis le 9 mars, essentiellement à la Bourse du Travail. Là, depuis la manif du 9 avril, donc samedi dernier, à l'issue de la manif, il y a eu une assemblée sur la place de la mairie, donc dans l'après-midi, et où il a été décidé en fait de rendre permanent, enfin régulière ces assemblées de lutte. Donc ça se passera donc tous les lundis soirs à 18h30 à la Bourse du Travail. Donc sont invités toute personne, syndiqués, non syndiqués, retraités, salariés, lycéens, enfin tout un chacun est invité. Et en tout cas, la particularité de ces espaces qu'on veut, c'est de discuter de comment on s'organise collectivement pour se mettre en lutte. C'est une, je pointe ça parce que c'est la seule différence. En fait, c'est moins un espace de palabre ou d'agora comme on pouvait parler par rapport à Nuit Debout, où on peut prendre le temps de toute la nuit. On peut prendre toute la nuit pour discuter tous ensemble, de par petits groupes ou en assemblée. Là, ce sont des espaces qu'on veut pour discuter de la lutte et de comment on s'organise dans la lutte.
D'accord. Enfin, ce que j'entends quand même, c'est qu'il y a justement ce souci de se réapproprier un lien social qui, semble-t-il, fait défaut, que ce soit à travers, effectivement, le mot discussion revient souvent dans votre bouche, hein, Philippe, hein, c'était le cas aussi chez Vincent. Est-ce que vous craignez pas, les uns et les autres, une récupération politicienne, politique, de partis de gauche ou d'autres, vis-à-vis de ce mouvement ?
On craint pas, non. Non. Non, on les craint pas, ils peuvent venir.
Jean-Luc Mélenchon, par exemple, pour ne citer que lui, est très attentif.
Mais tous sont très attentifs. Ouais, tout le monde aimerait bien essayer de récupérer le mouvement, mais je crois que c'est pas jouable pour l'instant pour eux. Il y a quelques petits groupes confusionnistes qui montrent un petit peu le bout de leur nez, qui sont le mouvement du 14 juillet,
le mouvement
égalité réconciliation.
On ne sait pas forcément. Alors confusionnistes,
c'est le mouvement qui essaie de rassembler l'extrême droite et l'extrême gauche sur un même combat. Bon, voilà. C'est des sous au Front National, mais bon, ils sont tellement peu intéressants qu'on va pas s'attarder sur eux, quoi. Mais je crois que la récupération, non, c'est pas possible pour le moment.
Tom.
En fait, on le voit souvent dans les manifestations, notamment à Paris. Dernièrement, à la Nuit Debout, il y a eu beaucoup de manifestations sauvages, on peut dire. Et je pense que ça montre bien le fait que les gens manifestent par eux-mêmes, sans avoir une organisation qui va déclarer une manifestation. Ils sont vraiment dans l'optique indépendant, mais
autonome, indépendant, ouais, voilà. Et libertaire, dirais-je, peut-être, non ?
Oui, et puis moi, ce que je rajouterais, c'est pour qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas de récupération, c'est de bien marquer ce qui est le fond du mouvement, c'est la lutte de classe, quoi. Et à partir du moment où on parle de lutte de classe, de conditions de travail, je crois que là, il n'y a pas beaucoup de partis politiques qui peuvent venir récupérer.
Il y a des partis qui sont encore marxistes, qui parlent encore de lutte de classe, hein, en France et ailleurs. Vincent, la question de la violence, c'est une question qui aussi surgit dans ces rassemblements. Comment vous positionnez-vous par rapport à cette question-là ?
Aucun problème avec la violence. Tout le monde choisit sa lutte. Je crois que c'est un piège qu'on nous tend, effectivement, de dire y a des gens qui font une manifestation et s'il y a des gens violents, enfin, ou des gens qui s'expriment leur ras-le-bol d'une autre manière, ils viennent décrédibiliser le mouvement. Bon, voilà, c'est un débat de société qui essaie de casser le mouvement. Après, il y a des gens, effectivement, qui en ont ras-le-bol.
Ce qu'on appelle les black blocs, par exemple, dans les manifs.
Je crois qu'on est tous des black blocs.
D'accord.
Je me revendique black bloc, sans aucun problème. Ça fait partie de la lutte. La lutte d'une casse d'une vitrine d'une banque ou des cibles comme ça, pour moi, elle me paraît vraiment secondaire par rapport à la casse de la vie des ouvriers et des ouvrières dans le pays. C'est vraiment ridicule qu'on parle de ça. On parle d'un DRH qui se fait arracher une chemise, mais on parle pas des 3000 personnes qu'on va retrouver à la rue. Donc voilà, quelle violence on parle. Moi, je veux bien qu'on parle de violence, mais on en parle vraiment à ce moment-là.
Il y a une violence physique, il y a une violence sociale. D'accord. Philippe ? Oui.
Oui, moi, ce que je voulais juste ajouter, parce qu'il y a un truc intéressant dans ce mouvement, sur la question de la violence, là, notamment, il y a eu la coordination étudiante et lycéenne ce week-end à Paris, et il en est ressorti ce qui est assez, enfin, en tout cas, intéressant et étonnant, justement sur la question de la violence, un refus, justement, de cette catégorisation de casseurs dans les manifestations, un refus de dissociation, en tout cas, au sein du mouvement, de toute façon, on l'a vu, qui est justifié, notamment, par la réponse policière, de la répression policière qui est en face. Donc, ça devient une nécessité, de toute façon, dans des manifestations, de se défendre, de toute façon, face à la police. Enfin, il faut pas oublier qu'on est dans un contexte d'état d'urgence. C'est quand même, une particularité de ce mouvement, un mouvement social qui émerge dans un contexte d'état d'urgence. On ne sait pas encore quelle tournure ça peut prendre.
Oui, pour l'instant, l'État ne réprime pas violemment l'ensemble des manifestations nuit debout. Il y a eu des incidents, effectivement, à Nantes, Rennes ou à Paris, mais enfin, dans l'ensemble...
Il ne réprime pas à l'aune de tout ce qui est des capacités donc, qu'il a, des outils qu'il a au jour d'aujourd'hui ouais. Avec l'état d'urgence, mais il n'empêche que le 31 mars, il y a eu 140 arrestations dans la manifestation. Les fois précédentes, il y en avait des dizaines aussi à travers toute la France. Non, il y a une répression, une réelle répression. Les premières assemblées qu'il y a eu à Tolbiac à Paris, elles ont été expulsées de force par les flics. Il y a eu des gens qui ont été blessés. Il y a du sang qui est resté sur le trottoir devant Tolbiac. Non, il y a une répression, il y a une réelle répression. Et c'est parti immédiatement, dès le 9 mars, il y a eu des affrontements par la réponse que donne l'État à ces mobilisations. D'accord. Ils ne veulent pas, l'État veut tuer le mouvement.
Et puis, encore une intervention.
On dit qu'il n'y a pas beaucoup de répression. Si, il y a beaucoup de répression. À Vaux-en-Velin, il y a eu des agressions, effectivement, sur les lycéens par la part de la police. À Saint-Denis, il y a des répressions aussi. Donc, dans les quartiers difficiles ou dans les quartiers populaires, il y a de la répression qui est continuelle et qui est quotidienne du mouvement, mais aussi en dehors des mouvements. Donc, il y a vraiment de la violence, il y a vraiment de la répression.
Vincent, vous venez de parler de Vaux-en-Velin, ça me fait penser que j'entendais pas plus tard qu'aujourd'hui ou hier un mouvement qui prend exemple sur Nuit Debout, qui s'appelle Banlieue Debout.
Oui.
Que penser de cette initiative ?
Je trouve que c'est effectivement, je pense que c'est quelque chose qui est important aujourd'hui. Et bon, on n'avait pas vraiment prévu d'en parler. Que je sais pas les copains ce qu'ils en pensent, mais je pense qu'effectivement,
certains n'en ont pas encore entendu parler.
Qu'effectivement. Ce que l'on vit chacun de notre côté dans notre société, et peut-être là pour certains de façon un peu plus frontale, c'est effectivement ce que vivent les quartiers populaires depuis des années et des années et des années et des années. Et qu'aujourd'hui, ils ont... je trouve que c'est très bien qu'à un moment donné, ces groupes-là, ces personnes-là, puissent aussi prendre leur parole et la faire porter. Parce que effectivement, sur les mouvements Nuit Debout, sur d'autres mouvements... c'est très blanc quand même. C'est une partie de la population bien particulière. Et ça serait bien qu'à un moment donné,
c'est un peu bobo, vous voulez dire, c'est ça ?
Oui, j'irai pas jusque là, mais oui, un petit peu. Mais c'est vrai que quand même, ceux qui en prennent plus plein la gueule, c'est avant tout les quartiers populaires et depuis longtemps. Et si on arrive à les faire rentrer dans les luttes, ça sera quand même.
Mais justement, tout à l'heure, vous parliez de convergence des luttes en créant un mouvement Banlieue Debout. C'est pas plutôt justement scinder, séparer ?
Non, c'est pas scinder, c'est se prendre en main. C'est un petit peu ce qu'avait fait un mouvement comme il s'appelait le MIB, mouvement immigration banlieue, qui à un moment donné a dit dans les années fin des années 80, disait bon ben voilà, on en a marre que ça soit les autres qui portent nos mouvements, on va les porter nous-mêmes quoi. C'est un petit peu le pari qu'avait fait Bouge qui bouge aussi sur Lyon, qui disait voilà, on va porter nos mouvements. Ça veut pas dire qu'il y ait dissociation, loin de là, mais ils veulent porter le mouvement et s'intégrer comme la CGT s'intègre dans la lutte, comme le FO s'intègre dans la lutte, comme Nuit Debout s'intègre dans la lutte. Après, on fait une lutte ensemble, mais qu'effectivement, les secteurs puissent porter parce qu'ils sont plus même de parler de leur situation. Je trouve que c'est très bien. Quoi.
Merci Vincent de cette analyse. Merci Lino. Tenez-nous au courant de ce qui se passe donc au lycée Jacques Prévert qui est occupé jusque donc au 16 avril. 16 avril où se tiendra également donc la manifestation le mouvement Nuit Debout avec, je crois, ce jour-là sur la place de la mairie, la projection du film Merci Patron de François Ruffin dont vous parliez il y a quelques instants. Oui Philippe, un dernier rendez-vous.
Juste pour donner les rendez-vous de la semaine. Donc là, donc ce matin il y avait un rassemblement devant la permanence du député Verdier, appelé par les différents syndicats d'Alès. Demain, il y a un rendez-vous donc à 10h dans le parc du Colombier, en face donc dans le centre-ville à côté du McDonald's. C'est pour partir en action, donc qui a été décidé donc en assemblée dans le cadre de l'assemblée lutte. Donc les modalités seront discutées à ce moment-là. Et à 15h, il y a une manifestation donc, qui est appelée donc, par les lycéens donc, de Prévert et de JBD, donc au départ du lycée JBD, donc à 15h demain à Alès. Et donc voilà, après sinon parler de Nuit Debout, donc samedi à partir de 18h pour Nuit Debout, et à partir de 21h pour une projection du film Merci Patron.
Merci Patron. Dernière chose, donc le lycée est occupé, je voudrais juste signaler donc ce communiqué d'occupation du Centre Dramatique National de Montpellier par les intermittents, à savoir qu'ils ont décidé d'occuper cette maison, mais qu'ils n'empêcheront ni les spectacles, ni l'accueil du public, et ils appellent l'ensemble des intermittents, bien sûr, à occuper les lieux nationaux de l'art et de la culture. Réjouissons-nous, termine-t-il, de l'argent, il y en a, deux points au Panama. Voilà, c'était donc une émission spéciale avec Vincent, Tom, Lino et Philippe que nous remercions pour justement faire le point sur cette convergence des luttes que vous appelez de vos voeux. Cathy était à la réalisation technique, Yves au micro. Au revoir et vous retrouvez les croisières musicales, bien sûr, de RGO.